Tech & Co, la quotidienne, le débrief de la tech.
Voilà, le débrief de la tech ce soir avec nos spécialistes Zoé Meul, bonsoir.
Bonsoir.
Zoé, associée chez Balderton Capital. Enguerrand Renaud, bonsoir.
Bonsoir.
Enguerrand, consultant chez Image 7 et ancien journaliste dans de nombreux médias, les plus prestigieux, Presse Écrite, Le Figaro, Le Monde, Les Échos. Enfin voilà, on t'a lu partout pendant des années. Aujourd'hui, tu conseilles les entreprises chez Image 7. Et puis, à distance, Bruno Guglielminetti, bonsoir Bruno. Merci d'être avec nous. Donc, tu es à Québec, journaliste animateur de Mon Carnet de l'actualité numérique. Je vous le conseille, hein, même si Bruno est loin. Déjà, c'est en langue française, donc c'est plus facilement accessible pour nous francophones. Et puis, il y a plein d'infos intéressantes. En plus, avec ce regard de continent nord-américain, toujours en particulier, et ce double regard, celui de Bruno, qui connaît bien l'actualité et qui a toujours aussi cette petite touche hein, que l'on aime bien et que l'on aime bien, notamment ici chez Tech & Co. Alors ce soir, on va parler, je l'ai dit, d'Apple qui préparerait de la robotique pour la maison. Alors, est-ce que c'est le one more thing un peu en avance par rapport à la WWDC? On va parler aussi, vous savez, c'était la AWS Summit il y a quelques jours. François Sorel y était. C'était hier, il y était. Et puis, AWS en a profité pour annoncer son nouveau service Bedrock avec plein d'IA. Il y a du Claude 3, il y a du Mistral, il y a du Stability. Enfin, voilà, c'est une plateforme. On va essayer de comprendre un peu ce que fait AWS dans le domaine. Et puis, on aura évidemment ce tremblement de terre à Taïwan, hein, qui est assez tragique, évidemment, mais bien le monde économique et le monde de la tech s'inquiètent, parce que, vous le savez, évidemment, tous les grands fondeurs de semi-conducteurs sont là-bas. TSMC a arrêté plusieurs centaines d'usines. Hein. Donc, voilà, ça inquiète aussi, alors à la fois pour les pertes humaines, évidemment, mais aussi les pertes économiques. On va revenir aussi sur le levée de fonds. Et oui, le levée de fonds, ça cale un peu. Si vous étiez à l'instant avec Guillaume Paul, eh bien, vous avez entendu ça. Oui, on a du mal, mais pourtant, on a une belle start-up qui est avancée, elle s'appelle Pigment. Vous la connaissez peut-être, ça avait été notre révélation des BFM Awards cette année. Pigment qui vient de lever, enfin qui passe licorne en levant combien ?
145,
j'allais dire 200, mais c'est 145.
Mais au total, quasiment 400.
Oui, oui. Et puis avec son étonnante, enfin sa pétillante PDGère et fondatrice. Et puis on parlera, si on a le temps, on parlera des 20 ans de Gmail. Et oui, 20 ans déjà, vous rendez compte, alors qu'on a l'impression de l'utiliser au quotidien depuis quelques années, mais ça fait déjà 20 ans que nous utilisons tout ça. Allez, on démarre avec Apple et la robotique. Qui démarre ? Enguerrand, on a été un peu surpris. Donc, on rappelle, hein, WWDC, donc la grande conférence développeur d'Apple, c'est le 10 juin. On a eu l'annonce. On verra, on imagine qu'il y aura beaucoup d'annonces autour de l'IA. Et puis là, on s'étonne un peu parce que c'est vrai que j'ai fait un petit bilan tout à l'heure. Je me disais, l'échec, enfin l'Apple Car, bon, qui était un échec, mais en même temps, on n'en parlait pas vraiment, on savait
oui,
pas trop.
Oui, mais ça peut revenir. Enfin,
voilà, ça peut revenir.
En tout cas, ils ont misé beaucoup et ils ont dit qu'ils l'abandonnaient
provisoirement. C'était mis de côté. On estime qu'il y a un certain retard en intelligence artificielle aussi par rapport au Apple, au Meta, par rapport au Google, par rapport à Microsoft.
Et ça, c'est plus qu'une estimation, puisqu'il a confié à Google le fait
de
mettre le moteur de recherche et l'intelligence artificielle dans les smartphones.
Voilà, le décollage difficile du casque Vision Pro. Bon, oui. C'est qu'il y a plein de technologies, mais on voit quand même que même les plus passionnés se disent « oui, c'est sympa, mais la concurrence à venir sur les magasins d'applications avec le DMA hein, qui permet à d'autres sociétés, on a vu les Epic, les Sony, les Microsoft qui sont en train de se poser des questions autour des, et ça ferait des revenus en moins pour Apple. Les processeurs, bien oui, Apple a ses propres processeurs, mais il y a une grosse bataille aussi derrière tout ça, surtout autour de l'IA. Le marché chinois qui doit représenter le levier de croissance pour Apple et ça se complique. Hein. Il y a une grosse concurrence aussi là-bas. La succession de Tim Cook à laquelle il faut penser aussi. Et puis voilà, depuis le 1er janvier, l'action a perdu 11%. 330 en bourse, ça fait 330 millions de dollars qui se sont comme ça évanouis. Bon. Ça reste Apple.
Ça reste quand même la
première capitalisation ou la deuxième avec Microsoft, deuxième capitalisation mondiale boursière et voilà avec toute la réussite autour de l'iPhone. Mais voilà, on a donc Marc Gourman, journaliste très très bien informé souvent de chez Bloomberg, qui nous dit Eh bien, figurez-vous qu'Apple préparait peut-être un petit robot. Alors, pas un robot humanoïde, hein, plus un,
non, plus un robot domestique.
Voilà, un robot compagnon.
Non, mais le vrai problème, c'est qu'Apple est en panne de croissance. On l'a vu sur les résultats de l'année 2022-2023, parce qu'ils sont un petit peu décalés. C'est une panne de croissance. Là, le premier trimestre qui s'est terminé en décembre, et les ventes d'appareils sont stables. Il n'y a que les services qui progressent. Et les services risquent d'être un tout petit peu perturbés par l'application du DMA, du moins en Europe. Donc ils ont un problème de croissance. C'est un énorme problème de croissance. Et Apple a toujours réussi à trouver des relais de croissance. Smartphone est un relais de croissance, voilà. Les services, le streaming musical et autres. Et là, aujourd'hui, c'est un peu le troisième étage de la fusée qui manque, quoi. Tu l'as dit, la voiture, ça sera pas ça. L'intelligence artificielle, qui est le relais de croissance pour tout le monde, sauf pour Apple. Et l'annonce, si toutefois elle est confirmée dans les prochains jours par Tim Cook, elle laisse un peu sur sa fin. On va quand même pas dire. Enfin, Apple, c'est qu'il nous a habitués à ce qu'on appelle des projets moonshots.
Justement.
Et là, c'est la robotique domestique. Personnellement, ça me fait pas rêver.
Oui, non, ça nous fait pas rêver. Justement, on va écouter ce qu'en disait Anthony Morel, notre spécialiste, l'un de nos spécialistes tech et geek, que vous retrouverez d'ailleurs ce week-end. C'est lui qui anime De quoi je me mail. Anthony Morel, on l'écoute. Il était dans la matinale de BFM Business. Voilà ce qu'il disait ce matin même, alors qu'on venait d'apprendre justement qu'Apple travaillerait sur la robotique. Et lui aussi, je crois qu'il n'est pas très impressionné.
Deux modèles sur lesquels travaille Apple. Le premier, ce serait un écran robotisé qu'on pourrait poser sur un bureau, par exemple. Les premières versions testées seraient notamment capables d'imiter les mouvements de la tête de votre interlocuteur en visioconférence. Ouais. Donc votre interlocuteur hoche la tête, le robot hoche la tête aussi. Bon, pourquoi pas, on verra. Et le deuxième modèle, c'est un robot mobile capable de suivre les utilisateurs partout dans la maison.
C'est un peu R2-D2.
C'est un peu ça, exactement. Moi, ça me fait penser, alors on n'a pas encore toutes les infos, hein, c'est encore très parcellaire parce que c'est vraiment le début du projet, mais à ce qu'a présenté Samsung lors du CES de Las Vegas, un petit robot qui s'appelle Bully, qui vous suit partout et qui peut, par exemple, projeter un écran sur n'importe quel mur, jouer avec un animal de compagnie, chercher un objet que vous avez perdu dans la maison, ça pourrait être ce genre de fonctionnalité. Ce qui est sûr, c'est qu'Apple a près de son campus de Cupertino un laboratoire secret ou qui ressemble à l'intérieur d'une maison où il teste toutes ces innovations. Il a recruté des spécialistes en robotique. Il y a une équipe de chercheurs en intelligence artificielle qui travaille sur le projet. Et ce projet, il est finalement assez cohérent avec la stratégie de diversification d'Apple. Vous savez qu'ils essayent de trouver des nouveaux relais de croissance à côté de l'iPhone. Effectivement, il y avait ce projet de voiture. Bon, ils ont abandonné. Eh bien, ce nouveau projet industriel, ça pourrait être assez logique finalement dans les plans d'Apple. La direction a annoncé à ses cadres que l'entreprise allait se focaliser sur, un, la réalité mixte avec l'Apple Vision Pro, et deux, sur la maison, énorme marché potentiel, mais sur lequel Apple ne sera pas le seul, puisque au-delà de Samsung, dont on parlait à l'instant, on a aussi des entreprises comme Amazon ou Tesla, avec son robot Optimus, qui travaille aussi sur la notion de robot domestique.
Avant de revenir avec nos débriefeurs ici, Bruno Guguel Minetti, tu es à Québec, qu'est-ce que tu penses un peu, est-ce que tu trouves cette stratégie cohérente, comme le dit Anthony Morel, tu trouves ça un peu décevant, comme on vient de le dire ici, comme vient de le dire à Enguerrand, quel est ton regard?
Disons que c'est surprenant, mais de l'autre côté, et comme le disait mon collègue panéliste tout à l'heure, Apple est à la recherche d'une troisième partie de sa fusée pour continuer sa montée, et ils doivent trouver quelque chose. Et il faut garder en tête que dans l'expérience automobile, bon, qui a quand même pris 10 ans de vie et de financement chez Apple, ça a quand même donné des choses. Tout ce qui est autour du Vision Pro, ça a été développé à l'époque lorsque les équipes de Apple cherchaient à embarquer l'AR et le VR à l'intérieur de l'habitacle de la voiture.
Il y a réalité virtuelle et réalité augmentée, je précise.
Exactement, ouais. qui a permis de bonifier l'expérience du Vision Pro. On peut imaginer qu'il y a d'autres technologies qui ont été développées dans ce contexte-là. Et puis, sachant et regardant les embauches qui ont été faites dans ce domaine-là, moi, j'ai l'impression qu'il y a des efforts, il y a un intérêt de ce côté-là. Mais comme le disait précédemment mon collègue, il y a quand même Amazon qui est dans le domaine et qui fait pas vraiment bien. Et dans le cas de Bally, de Samsung, c'est la deuxième fois que Samsung arrive avec ce produit-là et il n'est pas encore sur le marché. Oui. Alors moi, j'ai bien hâte de voir, est-ce que les gens sont prêts à avoir des petits robots personnels qui vont les suivre comme des R2-D2 dans le quotidien? Ce n'est pas donné. Mais ça ne me surprendrait pas qu'il y ait de la recherche et du développement qui se fasse. Ils ont quand même une bonne caisse dans laquelle ils peuvent aller piger pour financer de la recherche et du développement. Alors oui, ça peut être une piste, mais il faudra voir à moyen terme. Et de toute façon, comme tu disais, Frédéric, au mois de juin déjà, on va avoir peut-être certains son de cloche là, avec ce qui sera présenté aux développeurs.
Oui, je suis assez d'accord. Enfin, Amazon serait peut-être le candidat le plus... qui nous viendrait à l'esprit en premier, puisqu'il y a Alexa, donc on mettrait un robot avec Alexa, ce qu'ils ont essayé de faire avec Astro, je crois que c'était en 2021. Je ne sais pas si c'est un flop, mais en tout cas, ce n'est pas une réussite. C'est-à-dire qu'on peut l'acheter que c'est on demand, donc c'est, on demande.
Et on n'est pas encore habitué, tout simplement.
Le robot est produit et ensuite il est livré et, le leadership de cette équipe-là n'est pas très stable. Il y a des personnes qui sont parties récemment, fin d'année dernière. Donc. Pas certaine de voir un succès d'un robot de maison qui sait faire plein de choses différentes. Mais par contre, ça revient un peu à la question de l'IA, comme on l'avait envisagé au début.
L'assistant personnel.
Ouais, l'assistant. Enfin, non, j'allais dire l'IA physique, c'est-à-dire robotique, ouais. Qui fait des. En fait, c'est beaucoup plus complexe de créer un robot que de créer un LLM. Et ça, on s'y attendait pas. On pensait que l'IA allait d'abord révolutionner le monde des cols bleus avant de révolutionner le monde des cols blancs. Ça s'est fait de la manière opposée, en commençant par les créateurs, créatrices de contenu. Donc c'est un peu. Mais là où ça fonctionne aujourd'hui, c'est dans des tâches répétitives spécifiques, pas vraiment dans le côté génératif.
Mmh, oui.
Donc je le vois pas pour l'instant, mais peut-être pour des tâches très spécifiques. Peut-être.
Après, comme le dit très bien Bruno, c'est les rumeurs, parce que ce sont encore des rumeurs. Hein, c'est pas Apple qui a annoncé on va lancer un robot. C'est Mark Gurman, donc qui est toujours bien informé. Mais peut-être, voilà, il a réussi en fouillant quelques dossiers. Il s'est dit tiens, ils sont en train de bosser dessus. Et c'est
souvent,
peut-être
souvent Apple laisse des indices.
Oui, en plus,
faut quand même le savoir. Tu les suis depuis suffisamment longtemps. Tu sais très bien. Tu te souviens une fois, il y avait un nouveau modèle de smartphone qui avait été oublié par hasard dans un Starbucks. Il me semble. Enfin, voilà, ou dans un autre restaurant.
On a pas vu si un smartphone pliant avait été oublié, pas encore.
Ce qui m'intéresse, et quand on suit la tech, ce qui est toujours intéressant, c'est l'usage. L'usage. C'est-à-dire qu'un smartphone, l'usage, en quelques mois, la Terre entière voulait un smartphone. Mmh. On l'a vu avec ChatGPT, en quelques semaines.
Tout le monde voulait
100 millions de personnes ont prompté sur ChatGPT. Quand l'usage est là, le marché se développe à une vitesse grand V. La robotique domestique, l'usage, et ça fait longtemps, hein, on l'a vu, il l'a dit.
Mais on avait mis des Français, Amazon, hein, des Français ont lancé aussi leurs produits.
Aldébaran, chez Aldébaran, par exemple, il n'y a pas d'usage. Enfin, franchement, qu'est-ce qu'on va faire?
Il y a des usages, toujours des usages dans la santé, maison. Mais. Voilà, alors pour des enfants parfois qui ont des particularités, des enfants autistes, on en parle dans ce domaine-là, dans des angles très précis. Mais c'est vrai que même à la maison, et je pense que quand Zoé parlait tout à l'heure, je veux dire, on n'est pas encore bien habitué non plus à parler à nos enceintes. Enfin, c'est pas encore dans notre façon d'être.
Mais moi, je me rappelle quand Alexa est sortie, je vivais aux États-Unis à l'époque, mais c'était pareil ici. Le fait qu'on puisse parler à Alexa, c'était une révolution en tant que telle. Je pense. Pour revenir sur ton point, je pense pas qu'ils vont s'atteler à un petit marché. Non, je pense qu'ils vont chercher un gros marché, mais par contre, il va falloir que ce soit une tâche spécifique et répétitive. Donc, je sais pas trop. Ça réduit les options, quoi.
Bruno, toi, tu en penses quoi? Et notamment autour de l'IA, parce qu'on sait que depuis le départ de Goodwill en 2022, qui était l'une des têtes pensantes de l'IA chez Apple, il n'a pas vraiment été remplacé. Là, on voit que Johnny Ive, il a drainé pas mal de monde. Il signe avec OpenAI, il a drainé pas mal de gens de l'IA. On sent que Apple est un peu à la recherche aussi de ses cerveaux, hein, parce que ça vient de là aussi. Il ne s'agit pas d'avoir des équipes et des milliards. Il faut aussi les quelques uns qui pensent un peu plus vite que les autres. Qu'est-ce que tu en penses, toi?
C'est intéressant parce que ça me permet de ramener le fait qu'on a l'impression qu'il y a toute une couche d'exécutifs chez Apple qui ont pris leur retraite, qui sont partis. Un peu comme s'ils se disaient, les bonnes années sont passées et puis on laisse la chance à une nouvelle génération de créer quelque chose. Et on les voit partir chacun de leur côté en train de démarrer leur propre service ou sinon d'aller travailler avec d'autres organisations. Et j'ai l'impression que, puis de toute façon, ça a déjà été dit ce soir, j'ai l'impression qu'Apple est vraiment à la recherche du next big thing et ça va se faire dans la recherche et dans le développement. Et là, on est un peu en train de tirer un peu partout. Là, malheureusement pour eux, Bloomberg vient de mettre la main sur des informations. Alors, on parle de ça, mais j'ai l'impression qu'on va devoir encore attendre une bonne année facilement avant de commencer à avoir j'allais dire, entre guillemets, des vraies rumeurs sérieuses sur un produit qui potentiellement pourrait être intéressant. Mais effectivement, on doit d'abord et avant tout tabler sur une demande, un besoin. Quand Steve Jobs est arrivé avec l'iPhone, les téléphones intelligents existaient déjà. Hein. Il y avait des Trio, il y avait des Nokia. Ben, ils n'étaient pas aussi évolués, on s'entend. Il y avait des BlackBerry. Il a amélioré l'expérience. Mais là, il faut regarder autour de soi qu'est-ce qui reste à améliorer et on peut déjà avoir des pistes.
Oui, on sentait qu'il y avait on ne savait pas identifier ce besoin. C'est vrai qu'on utilisait tous des BlackBerry, des Nokia, des téléphones Alcatel. Alors, on téléphonait, on envoyait des messages. On avait encore du mal à avoir le besoin. Puis bon, là, on l'a rapidement évoqué. Alors, on a fait le tour de ce sujet-là. Je voulais aborder un autre sujet important. Donc, tragiquement, il y a quelques jours, il y a eu un tremblement de terre donc à Taïwan. On a vu toutes ces images assez sidérantes. Il y a malheureusement eu quelques morts. Alors, il y avait une alerte au tsunami. Enfin, voilà, il y a tous ces événements tragiques. Et puis, évidemment, Taïwan, c'est aussi beaucoup d'industries, notamment dans le domaine de la fonderie, de la conception de circuits intégrés, de l'assemblage, de tout ça, l'encapsulation. Et là, on voit, alors, TSMC le premier a dit, nous, on va fermer plusieurs centaines d'usines. C'est pas plusieurs centaines, plusieurs sites, quelques chaînes d'assemblage. Non, c'est plusieurs centaines d'usines pour justement protéger nos ouvriers, voir un peu, évaluer un peu les dégâts ou les potentiels dégâts ou ce que peut arriver. Et là, du coup, ça tremble un peu, Enguerrand.
Oui, en fait, on ne se rend pas compte de la dépendance du monde vis-à-vis de cette toute petite île de Taïwan. Plus de 55% de toutes les puces, de tous les semi-conducteurs qui sont partout, là, dans ce studio, il y en a absolument partout, sont fabriqués à Taïwan. Et 90%, c'est juste énorme, des puces les plus avancées, celles qui sont en dessous de ce qu'on appelle 10 nanomètres. Oui. Et toutes les puces de NVIDIA, première ou deuxième capitalisation mondiale. NVIDIA, c'est le moteur de l'intelligence artificielle, mais ce moteur ne fonctionne qu'avec les puces NVIDIA qui sont elles-mêmes fabriquées par TSMC à Taïwan. Quand on voit l'impact économique, le tremblement de terre économique qu'il y a eu de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, on se dit que quoi qu'il puisse arriver à Taïwan, ça peut être un tremblement de terre. On l'a vu au Japon, le tremblement de terre de Kobe a mis fin à la croissance japonaise. Mm-hmm. La croissance des années 70, ça peut être ça. Ça peut être aussi l'invasion de la Chine.
C'est un souci. Ça reste toujours cette épée de Damoclès.
Quelle que soit la raison, s'il arrive quoi que ce soit à Taïwan, le monde entier.
Oui, parce qu'il faut bien rappeler. Je rappelais les métiers. Donc il y a de la conception de circuits intégrés, il y a de l'assemblage de composants, il y a de la fonderie. C'est 68% du marché mondial de la fonderie de puces. Et puis derrière, on parle de ces usines, mais on parle aussi de le fournisseur d'énergie, qui lui aussi est-ce qu'il va redémarrer tout de suite. Enfin voilà, il y a tout l'écosystème autour de ça. Oui, il y a de quoi s'inquiéter aujourd'hui, alors qu'on a un tel besoin et on l'a vu pendant le Covid. Sans composants, on a même vu des chaînes d'assemblage de voitures.
Qui
s'arrêtait, Zoé.
Non, enfin, rien à ajouter. Je pense que la dépendance, on l'a pas forcément en tête parce qu'on pense NVIDIA et en fait NVIDIA dépend de la fonderie de puces de SMC, comme tu le disais.
NVIDIA, c'est fabless. Ça n'a pas de. Ouais, ça ne fabrique rien.
Exactement. Mais et toute l'histoire de TSMC est fascinante. Je vous conseille le podcast Acquired là-dessus qui dure 3 heures, qui raconte de A à Z. Ouais. Mais enfin. Pour créer
avec des rachats, une société qui en 2015 était proche de la fin, s'est relancée avec des rachats. Enfin voilà,
c'est le gouvernement taïwanais qui a demandé au fondateur de commencer TSMC. Mais ça demande, il y a des demandes de capitaux immenses, en tout cas au début. Je rajouterais peut-être un point qui est qu'ils sont habitués au séisme, pas de cette envergure-là, on parle d'un séisme de 7.2, il n'y en a pas eu un comme ça depuis 25 ans, mais ils ont mis en place pas mal de choses, donc par exemple les machines qui sont arrêtées, ils sont en mesure de les redémarrer en l'espace de 36 heures, parce qu'ils ont eu des entraînements au préalable. C'est plutôt la provision en énergie et la menace
chinoise. C'est pour ça que j'en parlais, c'est tout l'écosystème alentour.
Et surtout les questions géopolitiques qui sont autour.
Bruno, Ton regard depuis Québec de ce tremblement de terre et justement de ce choc aussi pour l'industrie, pour l'économie.
Ben, je reviens sur les propos de Enguerrand quand il disait qu'on ne se rend pas bien compte, mais je vous dirais que les Américains, eux, s'en sont rendus compte assez rapidement pendant la COVID, et c'est pour ça qu'ils ont investi des milliards pour l'installation de lieux où on va pouvoir produire des microprocesseurs sur le territoire américain, parce que plus jamais, c'est Joe Biden qui le disait, plus jamais il veut voir les États-Unis être dépendants, peu importe du pays autre, il veut être souverain dans ses microprocesseurs. Et j'avoue que je sais qu'à un moment donné, il y avait eu cette réflexion-là du côté de l'Europe. Il y a eu des investissements qui, malheureusement, sont en train de bouger, là. Il devait y en avoir en France, finalement, c'est plutôt en Allemagne, peut-être que ça va se faire. Mais c'est une question qui est importante et ça ramène l'importance de la souveraineté technologique des grandes sociétés sur la planète.
Pour moi, ça ramène deux choses, parce qu'on parle beaucoup des atouts de l'Europe, alors voilà, nos cerveaux, etc. Mais des atouts de l'Europe, c'est aussi une énergie décarbonée, quand même. Enfin, notamment, on parlait pour la France, hein. L'Allemagne, c'est un peu plus compliqué, mais la France, énergie décarbonée. On va avoir des besoins en eau. En ce moment, en France, on peut fournir. Bon, il y a quand même toute une structure à mettre en place. Mais voilà, on a peut-être des atouts en énergie. On est très à cheval sur tout ce qui est développement durable. On n'est quand même pas dans des zone sismique de ce point de vue-là.
Frédéric, c'est quand même c'est pas facile de relocaliser la production. Non. C'est une usine de 7 nano, c'est plusieurs dizaines de milliards de dollars. Donc ce que disait
ne serait-ce que pour déménager les machines ASML, enfin pour en installer c'est un an pour l'installer, c'est des machines
c'est
de 150 tonnes.
Et mon collègue disait effectivement les États-Unis ont réagi très rapidement avec un Chips Act. L'Europe aussi, il l'a signé quasiment dans la foulée. C'est quand même 50 000, l'Europe a mis 50 milliards de dollars sur la table, mais 50 milliards de dollars, on a l'impression que c'est beaucoup. Finalement, à l'échelle de la nécessité en capitaux pour faire des nouvelles usines de dernier cri. Parce que ce qu'on a fait, là, on l'a vu, il y a eu un investissement de Broadcom avec ST Microelectronics à Grenoble, qui est quand même le lieu en France où on produit le plus de semi-conducteurs. Bon, c'est pas les puces de dernière génération.
C'est des 16, 20 nanomètres. Voilà, et là, on est bon. Dans les voitures, c'est bien. Dans les frigos, c'est bien.
En France, il me semble une capacité en dessous de 10 nanomètres. Il me semble. Ça à vérifier. Mais c'est ça l'avenir. Et quand on voit Nvidia qui dit effectivement, qui remplace sa H100 par une G500, il me semble, avec une finesse de gravure qui est inimaginable en Europe, on va mettre des années et des années et des milliards et des milliards d'euros pour rattraper.
Est-ce que c'est inimaginable? Est-ce qu'on a un manque de talent? Le fondateur de TSMC avait travaillé chez Texas Instruments avant et dans d'autres maisons.
Non, je pense pas qu'on a des manques de talent. Je pense que c'est une question de d'infrastructure et d'investissement. Si ça coûte très cher. On l'a vu à Grenoble. À Grenoble, c'est l'État qui a payé la facture de l'installation de Broadcom, quand même.
Mais rien qu'à ASML, on l'a vu, on en a parlé ici même l'autre jour. Une machine ASML, c'est 150 tonnes, c'est 6 mois pour aller l'installer, c'est 6 mois pour la paramétrer. Et ASML, ils ne sont pas capables d'en construire comme ça indéfiniment. Parce qu'à un moment, il était question qu'ASML vienne installer un centre de production en France. Bon, je crois que c'est plus du chantage qu'autre chose.
Du chantage vis-à-vis du gouvernement néerlandais
pour rester sur Eindhoven et dire écoutez, faites des choses pour nous parce que notre région fait un peu pitié alors que on est au centre du monde aujourd'hui avec nos machines. Bruno, tu nous vois comment toi par rapport à cette histoire de souveraineté c'est vrai qu'on avait, alors nous c'est Intel pour ne pas les nommer, avait choisi la France pour un centre de recherche et puis l'Allemagne pour un centre de production. Ils ont démarré en Allemagne. Bon, en France, Pat Gelsinger a dit il y a quelques jours non, en fait, on reporte, on a d'autres priorités aujourd'hui. Et quand il a rencontré Emmanuel Macron il y a quelques jours, c'était plus pour lui dire écoutez, on est en train de construire des usines formidables aux États-Unis. Comment vos industriels pourraient venir produire chez nous, hein? C'était un petit peu ça.
Ouais. Et moi, j'ai l'impression, en tout cas, vu de ce côté-ci de l'Atlantique, j'ai l'impression que c'est un manque de vision politique. J'imagine, on rêve, là, on discute, j'imagine un Bruno Le Maire qui prendrait le dossier dans les mains et partirait à la recherche de partenaires économiques du côté privé qui voudraient s'associer au gouvernement. Moi, j'ai l'impression qu'ils arriveraient à trouver le financement pour installer un vrai fabricant de microprocesseurs qui pourrait par la suite rayonner sur toute l'Europe. Mais je le sens pas, ça. Je sens des partenaires financiers qui viennent tourner autour de la présidence, du premier ministre, mais je sens pas vraiment d'oreille et je vois surtout pas de vision à moyen et long terme. Et c'est ça qu'il faut avoir. Il faut être conscient de l'importance des microprocesseurs dans le développement économique des pays. Et ça, je le sens pas du tout de chez vous.
Moi, je milite pour qu'on ait deux premiers ministres, un premier ministre classique et un premier ministre numérique qui suivent que ces sujets-là et à tous les niveaux. Et pourquoi pas Bruno Le Maire, parce que c'est vrai qu'il avait fait un discours, j'en parle souvent, du World AI Can il y a deux mois à peu près, qui était assez, assez visionnaire. On se dit, tiens, si tous ses engagements dans ce discours étaient tenus, il a mis le doigt sur tout ce
mais,
qui...
Mais Bruno a raison, on a beaucoup parlé d'argent, mais il faut une vision.
Bruno Guglielminetti.
Oui. Excuse-moi, Bruno. Il faut une vision.
Ouais.
Et c'est ce que Joe Biden, qui a beau être relativement âgé, on lui reproche suffisamment, avait quand il a fait l'IRA.
Mais il a connu l'histoire aussi. Il a connu l'histoire. Il est âgé justement. Il a vu ces usines qui sont parties, ces géants, ces IBM, ces grandes sociétés. Bon, il en reste que Microsoft aujourd'hui. Bon, il y a encore des Oracle qui vivent encore, mais il a quand même vu tous ces géants à l'époque, ces Sun Microsystems, toutes ces immenses sociétés. Tous partis, et puis là aujourd'hui il se dit non, il faut que ça revienne. Donc je pense que lui aussi ça doit le travailler, parce que c'était la puissance américaine, Bruno, toi qui regardes ça de
et puis après tranquillement c'est retourné au Japon, c'est retourné à Taïwan, et la Chine a pris une place qu'elle n'avait pas, puis est en train de bien faire de son côté. Donc effectivement, moi j'ai l'impression que c'est une question de vision, et tant que ça ne sera pas une priorité pour l'État français et même de vos voisins, j'ai l'impression que vous serez justement tributaire de ce qui se passe en Asie encore. Et puis du côté du Canada, je vous dirais qu'on est beaucoup partenaire avec ce qui se fait. Il n'y a pas de grandes usines de microprocesseurs, mais à part celle de IBM au Québec, qui a aussi un ordinateur quantique. Mais sinon, il y a énormément d'entreprises canadiennes qui fournissent et qui sont très heureux de voir ces grandes usines américaines-là, parce qu'ils fournissent des composantes. Et plutôt que les envoyer à l'autre bout du monde, ça va descendre tout simplement au sud.
Eh bien, merci à tous les trois. Vous restez avec nous, bien entendu. Bruno Guglielminetti depuis Québec, Zoé Moll et Enguerrand ici sur notre plateau. On va poursuivre notre débrief. On a encore beaucoup de choses à raconter, notamment autour de des levées de fonds, de Amazon AWS qui signe avec Mistral notamment. Et on va tout de suite retrouver le journal de l'écho avec Léo Dumas. Et puis, on enchaînera encore. Et puis, n'oubliez pas, tout à l'heure, on parlera aussi des magasins Amazon Go qui ferment. Vous savez, ces magasins, on ne payait pas, on n'avait plus de caisse, rien du tout. Finalement, on a été un peu blousé là-dessus. C'était des Indiens qui regardaient derrière des caméras. Il y avait un peu moins d'intelligence artificielle que ce que l'on imaginait. Voilà, on reparlera de tout ça avec nos invités tout à l'heure.